Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast d'entretien avec les dirigeants des établissements d'enseignement supérieur du domaine de la gestion et du management. Un podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Pieuvesan et pour mener notre interview du jour, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sarah.
En ce mois d'avril 2025, il y a deux grands sujets qui préoccupent le milieu universitaire, les attaques de Donald Trump contre la science aux États-Unis et le débat sur les pratiques discutables du secteur privé lucratif dans l'enseignement supérieur français, relancé par la sortie récente d'un livre-enquête intitulé « Le Cube » et sous-titré « Révélations sur les dérives de l'enseignement supérieur privé ». Pour parler de ce sujet polémique, mais aussi de la croissance et des objectifs de son propre groupe, nous recevons aujourd'hui José Milano, président d'Omnes Education, anciennement connu sous le nom de groupe INSEC. Bonjour José et bienvenue au Studio Module.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
José Milano, vous avez pris la présidence exécutive du groupe Omnes en juillet 2023. Vous y avez succédé à Mathias Emmerich, mais vous étiez déjà dans ce groupe depuis 3 ans en tant que directeur général, après y être entré comme DG délégué aux opérations en 2019. Et en fait, ce n'est pas votre première expérience de dirigeant dans le monde de l'enseignement supérieur. À la suite d'une première carrière dans le secteur des assurances, notamment comme DRH du groupe AXA, vous avez été recruté dès 2016 par Kedge Business School comme DG délégué pendant 1 an et puis 2 ans comme directeur général. Kedge, qui est donc une école consulaire à statut associatif, est donc déjà dans l'univers du privé, mais pas à but lucratif comme l'est le groupe Omnes, détenu par le fonds britannique Cinven. Si je fais des erreurs, vous me coupez évidemment. Et enfin, je termine ce rapide CV en rappelant que vous avez vous-même suivi des études très académiques, puisque vous avez un DEA de sociologie de Sciences Po, un DEA de droit de Paris 1, et que vous avez fait votre formation initiale à l'ENS Cachan, aujourd'hui Paris-Saclay, en économie-gestion. Alors restons une minute sur votre parcours, José Milano. Qu'est-ce qui vous a amené, à un moment donné de votre carrière, à passer du secteur des assurances à celui de l'enseignement supérieur quand vous avez rejoint une école de management?
Je pense qu'il y avait un goût pour l'enseignement. Quand on est normalien, on n'est pas tout à fait par hasard, on va dire. Et puis, je pense qu'il y a eu la rencontre de personnes qui m'ont conduit à passer de ce côté-là de la barrière. Si je puis dire, j'ai dirigé la formation du groupe AXA, donc j'étais de l'autre côté de la barrière, donc c'était plus facile, comme pas en avant, j'allais dire.
Bon, pas de regret à ce jour.
Aucun.
Vous êtes finalement resté assez peu de temps à la tête de Kedge, et vous semblez avoir été un peu déçu du manque de marge de manœuvre que vous aviez dans cette école, notamment avec les CCI de Bordeaux et de Marseille, qui étaient assez présentes et qui n'étaient pas franchement favorables à l'évolution que vous souhaitiez vers le statut de société anonyme. Et puis vous avez d'ailleurs fini par rejoindre assez vite, vous me direz si tout ça... est une façon de voir les choses. Mais en fait, vous avez fini par rejoindre ce monde de l'entreprise d'où vous veniez. Alors, déjà dans ce que j'ai dit...
Je m'entendais très bien avec les chambres, il n'y a jamais été question de société anonyme.
À un moment donné, si, quand même, quelques souvenirs.
Il n'y a eu aucune présentation en conseil d'administration sur ce sujet. Non, la question, c'est une question statutaire au sens plus large, et puis de toute façon, c'était déjà une question de modèle économique. Mais non, j'ai adoré cette période chez Kedge, je garde de très bons souvenirs, de très bonnes relations, et j'y ai beaucoup appris, et peut-être que j'y ai un peu donné. En tout cas, on a eu 4 années de très belle croissance, avec une progression et du nombre d'étudiants et de projets, et de moyens d'investir, donc c'était très positif.
Est-ce que je me trompe si je dis que vous aviez quand même envie, je me souviens avec votre président de CA à l'époque, de faire évoluer Kedge vers un statut?
J'ai eu la chance d'avoir... Non, c'était pas la question du statut, c'était la question de Stanislas de Bensman, qui a été un de mes présidents, avait vu la transformation du secteur arriver avec à la fois la technologie, alors c'était pas encore lié à l'époque, mais c'était déjà inscrit, et puis en même temps, une dominante service extrêmement forte avec une internationalisation et un service et une personnalisation à l'étudiant. Et donc c'est cette combinaison-là qu'on a cherché à capturer dans un plan stratégique ambitieux. Il a quitté le groupe, j'ai eu une opportunité, j'ai fait autre chose, et je suis très heureux de ce choix d'Omnes Education. Mais c'était pour moi un président tout à fait visionnaire.
Alors, tout le monde n'est pas convaincu que secteur marchand et formation supérieure puissent faire bon ménage. Vous semblez l'être. Est-ce que vous comprenez les arguments de vos opposants? C'est-à-dire ceux qui estiment qu'on ne peut pas faire des marges et de la qualité en même temps, en gros.
Ouais, moi, je suis constant sur deux sujets, notamment celui-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une complémentarité du public et du privé. On est un secteur qui a besoin d'adapter son offre de façon assez rapide. On a besoin de se professionnaliser, enfin, en tout cas, d'avoir des étudiants professionnalisés, puis des formations continues extrêmement professionnalisantes. La recherche est nécessaire dans les deux environnements. Mais moi, je suis pour, depuis toujours, une coopération entre ces deux univers. Je crois que c'est ça qui apporte de la valeur à l'étudiant et aux entreprises. Et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que la question des moyens de financement des uns et des autres se pose. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, mais il y a une réponse en termes d'écosystème qui doit, au global, répondre à un enjeu majeur de compétitivité du pays, parce que notre structure de modèle social fait que si on n'a pas un enseignement super de qualité, on ne sera pas dans la division internationale du travail si contestée ces jours-ci, en tout cas avec des niveaux de valeur ajoutée suffisants pour financer les transitions qui sont devant nous.
Alors j'entends bien l'argument, le business model marchand permet d'aller chercher des capitaux, mais il a aussi des travers que montre bien donc le livre de Claire Marshall, Le Cube. On y voit les effets qu'un mode de gestion inspiré de la grande distribution, je dirais, peut avoir dans ce secteur, c'est-à-dire un modèle dans lequel on optimise tout ce qui peut l'être, les locaux, la gestion des profs, le marketing, avec d'énormes plateaux téléphoniques qui pistent et qui relancent en permanence le moindre prospect, des emplois du temps qu'on veut les plus allégés possibles, etc., dans le but de dégager des marges accrues, de faire grossir le groupe et puis de le revendre au bout de 5, 6 ans, parfois un peu plus, à 10 ou 15 fois son EBITDA, comme on dit dans le milieu de la finance. Est-ce que ce mode de gestion-là est adapté à vos yeux pour bien former les professionnels de demain, cadres intermédiaires, cadres supérieurs, ingénieurs, communicants, etc.
Moi, je peux témoigner que de ce que je connais, c'est-à-dire de mon groupe. Ce que je peux dire, c'est que Omnes Education, c'est 118 millions d'investissements sur 4 ans. C'est des campus que vous connaissez qui sont de très grande qualité. C'est des investissements informatiques, aujourd'hui digitaux et d'IA, qui sont parmi les plus importants en France. C'est évidemment un accompagnement humain de ces transformations. C'est une satisfaction étudiante qui est mesurée et qui a considérablement progressé. C'est une insertion professionnelle qui est mesurée et qui est extrêmement positive, avec des salaires de sortie et des taux d'emploi à 6 mois qui sont tout à fait importants, que ce soit d'ailleurs dans les écoles académiques du groupe, donc dans le format CGE que l'on connaît bien, et puis que ce soit des écoles professionnalisantes, parce que tous nos étudiants ou tous nos apprentis sortent avec un titre ou un diplôme d'État, donc ou reconnu par l'État. Donc c'est ça notre objectif, c'est d'améliorer ce modèle-là. Voilà,
donc aucune dérive, tout ce qui est décrit dans ce livre ne concerne que votre concurrent Galileo.
Je pense que comme dans enfin, vous savez que j'ai toujours demandé une plus forte régulation. Donc une régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire des règles claires qui sont contrôlées. Je pense qu'il faut qu'on regarde quels sont les taux d'insertion professionnelle, quoi qu'il en soit, parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilité que de construire l'avenir professionnel et donc personnel de nos jeunes.
Mais d'ailleurs, sur ce point-là, vous disiez que vous préconisiez un système où l'État est beaucoup plus clair sur les taux d'insertion.
C'est un système qui aujourd'hui peut être mis en place par les OBCO ou d'autres. D'ailleurs, c'est d'utiliser la DSN. D'ailleurs, l'État y travaille puisqu'il y a...
La DSN ?
Déclaration sociale nominative. Donc, c'est de coupler les diplômés, quel que soit leur niveau, avec, au bout d'un an, leur insertion professionnelle, c'est-à-dire dans quelle entreprise ils sont, à quel niveau de salaire. C'est objectif. C'est des informations qui sont remontées mensuellement par l'ensemble des entreprises. Donc, ça permettrait d'avoir des données parfaitement objectives.
C'est ce que fait Insersup un peu, non ?
Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout d'Insersup pour tout le monde, hein, donc ça concernera 85% des salariés, c'est-à-dire une immense majorité des étudiants sortant de cursus, et je pense que c'est typiquement un levier de régulation, puis après, bah, ce sera aux instances, alors sans doute comme elles le font aujourd'hui en se coordonnant entre le MESRI et le ministère du Travail, de façon à regarder les endroits où les formations donnent satisfaction à l'étudiant et aux entreprises, et puis celles où il y a des améliorations à opérer.
Pour l'instant, c'est pas encore fait.
Ça progresse, et moi je pense qu'il faut aboutir là-dessus, puis après il y a des contrôles, hein. Nous on a depuis 2 ans, et c'était le cas avant aussi, plus de 200 contrôles par an dans l'ensemble de nos écoles, on n'a pas eu de PV, donc
Des contrôles qui sont menés par qui?
Les OBCO, les directions du travail, enfin, l'ensemble des instances, le rectorat bien sûr, l'ensemble des instances qui sont concernées par nos sujets, Calliope, etc. Donc, Beaucoup de contrôle, peut-être qu'il faut, comme on parle beaucoup de simplification, non pas avoir moins de contrôle, mais peut-être les coordonner un peu mieux, de façon à ce qu'on puisse aller plus profondément sur certains aspects peut-être, et puis réduire les redondances. Mais franchement, c'est pas un problème. Quoi.
Alors, votre prédécesseur, Mathias Emmerich, que j'avais interrogé en 2023 sur le bien fondé d'un système qui aboutit, en toute logique, à financer la croissance des groupes lucratifs avec de l'argent public, en l'occurrence celui de l'apprentissage, puisque c'est ça dont on parle là depuis plus de 5 ans, et donc d'une certaine manière à ce que le contribuable français paye les retraites des infirmières de l'Ontario, par exemple, me répondait « La bonne question à se poser, c'est où va l'argent ? Dans le lucratif, il va in fine chez les actionnaires lors de la revente, si la valeur a été créée. Dans le non lucratif, il permet de recruter des enseignants stars d'un mercato mondial. » Alors, vous avez connu les deux systèmes, justement. À mon sens, il pointait là l'inflation salariale des collaborateurs des business schools qui fait flamber les frais de scolarité payés par les étudiants et donc qui nourrit une sorte de bulle qui n'est pas forcément plus saine. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que le modèle d'Omnes, soutenu par des fonds, qui rémunère des actionnaires, et le modèle associatif, comme celui de Kedge ou de Schema, voire le modèle consulaire qu'on connaît à HEC ou à Neoma, est-ce que ces modèles reviennent finalement au même ?
Il y a des similitudes. La similitude, c'est qu'il faut qu'on dégage de l'excédent pour pouvoir financer des investissements qui sont de plus en plus massifs. Donc, il y a eu effectivement de l'investissement dans le corps professoral, et notamment dans la recherche, et ça, c'est des progrès qui ont été faits ces dernières années. Il y a eu des augmentations des frais d'inscription, donc peut-être qu'on arrive d'ailleurs à un plateau. Il y a eu des financements publics pour l'apprentissage qui ont considérablement baissé, ils vont continuer de baisser. Hein, donc, aujourd'hui, il faut quand même se dire les choses, c'est que dans l'enseignement supérieur, les niveaux de prise en charge actuels sont inférieurs aux coûts, et donc ça, c'est objectif puisque tous les CFA, enfin je parle de 2023, et ça n'a pas pu s'améliorer en 2024, parce que l'ensemble des CFA remontent leur comptabilité analytique, donc c'est parfaitement transparent. Donc il faut aujourd'hui continuer d'investir. On investit dans des campus pour améliorer l'expérience étudiante. On a investi dans des personnels compétents pour notamment accueillir des étudiants internationaux. Et maintenant, le défi, c'est la technologie, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les autres écoles, y compris des business schools. Et donc là, ça veut dire qu'on a un mur d'investissement devant nous.
Donc il faut trouver de l'argent.
Il faut trouver de l'argent, donc il y a différents moyens selon la notoriété, selon le poids des anciens, selon... il y a différents modèles économiques, mais tous sont questionnés et doivent aujourd'hui être soutenables, comme on dit, c'est-à-dire ne plus dépendre de financement public ou parapublic, comme ça a été le cas dans le passé. C'est ni bien ni mal, c'est juste une situation.
Sauf que dans votre modèle à vous, une partie de l'argent ne revient pas à l'activité, puisqu'il va dans la poche des actionnaires.
Contrairement à ce que vous avez dit, il n'y a pas de dividende versé, hein, donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc pendant la période d'investissement, et nous on a la chance d'avoir, on est à la quatrième période d'investissement, donc vous voyez que le groupe a continué de se développer depuis 50 ans, ou en tout cas depuis le début des années 2000, où le modèle économique, en tout cas le modèle actionnarial a changé, et ça n'a pas empêché le groupe, au contraire, de se développer, à la fois par nombre de campus, en nombre d'écoles, en empreinte internationale. Donc ça montre que c'est possible, mais encore une fois, ce n'est pas la seule voie possible, il y a d'autres voies alternatives, et ce qui importe, c'est que l'écosystème, dans sa globalité, améliore son efficacité, et puis permettent aux étudiants d'être insérés professionnellement et accompagnent les transformations massives que vivent aujourd'hui les entreprises.
Alors, je reviens juste sur un point, vous dites que vous ne servez pas de dividendes, effectivement c'est pas ce que j'ai dit, puisque là où Cinven gagne l'argent, c'est à la fin, quand il revend le groupe, et qu'il le revend beaucoup plus cher qu'il ne l'a acheté.
Et si on a créé de la valeur collectivement, il y a une espérance de différentiel positif, mais bon, ça on verra le moment venu.
Alors, créer de la valeur, est-ce que c'est possible de créer de la valeur à ce niveau attendu, parce que c'est des niveaux élevés, quand on finance de la recherche ? Quelle est la place de la recherche dans des établissements comme vos 15 écoles ?
La place du monde académique, c'est à peu près 30% du total. Donc on a des écoles CGE, y compris d'ailleurs de l'université SISB, qui est l'université de Monaco. Donc on est parfaitement en règle avec tous les standards. Donc ça veut dire à la fois des ratios de professeurs permanents, ça veut dire évidemment des travaux de recherche. Alors nous, il y a une autonomie de chacune de nos écoles, avec l'idée d'avoir un focus un peu transversal, pluridisciplinaire, autour des transitions, qu'elles soient démographiques, technologiques, environnementales. Mais on a une équipe légère qui coordonne cette recherche, qui aide les étudiants, les enseignants-chercheurs à publier, qui aide les équipes à avoir plus de sécurité dans les dossiers qu'elles présentent de réaccréditation, par exemple. Donc, on peut faire de la recherche, on peut accompagner la recherche, on peut accompagner les enseignants-chercheurs, notamment dans la formation à l'IA, ce qu'on fait aujourd'hui.
Toutes vos écoles ne sont pas dans cette logique.
Non, je le dis bien, il y en a à peu près 25 à 30% du total de nos étudiants. Ce qui est important, c'est que des écoles de taille moyenne, ce qui est notre cas, sont augmentées par ces services mis à disposition de chacune de nos écoles, y compris en matière de ressources de recherche. Donc, on peut faire de la recherche dans nos écoles et en même temps avoir un pôle professionnalisant plus marqué. Je pense que c'est une illustration de ce que j'évoquais sur la diversité de l'écosystème.
Alors justement, rentrons dans le groupe Omnes, puisque alors vous me détromperez si mes chiffres sont faux, mais vous auriez environ 40 000 étudiants, dont 15 000 apprentis, 2 000 cadres en formation continue, et ceci dans une quinzaine d'écoles. Alors la plupart sont des business schools, on peut citer le SCE, l'INSEC, l'Université internationale de Monaco que vous mentionnez, ou encore l'IFG en formation continue. Plus rare, vous avez une école d'ingénieurs, le CE, et puis vous avez des écoles ensuite orientées sciences politiques ou affaires internationales, écoles de com, comme Sud de Pub, de design, de numérique. Plus de 20 campus, en majorité en Europe, mais aussi avec des implantations ailleurs qu'en Europe, en Afrique, en particulier à Abidjan. Alors, comment vous vous projetez ? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de baisse démographique en France, mais pas qu'en France, et donc éventuellement un éventuel tarissement, en tout cas réduction du nombre d'étudiants. Donc, comment vous envisagez la trajectoire de développement d'Omnes dans les 5 ans à venir, son périmètre, à la fois en termes de domaine disciplinaire, est-ce que vous allez rester sur les mêmes domaines, de territoire en France et à l'étranger ?
Alors, ce qu'il faut, c'est partir d'étudiants. L'étudiant, qu'est-ce qu'on lui propose ? On lui propose des titres et des diplômes reconnus par l'État, et on lui propose des services transversaux. Alors, quels sont ces services transversaux ? C'est pour tous une formation à la data. On a eu 19 000 étudiants formés cette année, et on aura 40 000 l'année prochaine. Formés à l'IA, donc c'est extrêmement important. C'est-à-dire que notre promesse, c'est que dès septembre prochain, tous nos cursus dans toutes nos écoles aient une dimension IA, parce qu'on a aujourd'hui des écoles très en avance là-dessus, et on peut décliner un certain nombre de modules auprès de nos autres écoles. Donc une dimension extrêmement forte qui prépare l'étudiant à la transition technologique et numérique. Même chose sur la RSE, deuxième pilier. La RSE, c'est aujourd'hui tous les étudiants passent les tests de l'ONU, reconnus par l'ONU, et on a des milliers d'étudiants qui font des projets dans le cadre de leurs études avec le groupe SOS, donc qui est la première entreprise d'économie sociale et solidaire en Europe. Troisième pilier, c'est la personnalisation, c'est-à-dire qu'on aura à la fin de l'année 10 000 étudiants qui auront suivi au moins un cursus d'une autre discipline que la leur. Donc on construit le portefeuille de connaissances et de compétences à partir du projet de l'étudiant. Donc on veut renforcer ce modèle-là. Pour ce faire, il faut qu'on ait évidemment davantage de vertical. Donc si on a plus de diversité de notre écosystème, ce sera bien, que ce soit en France ou à l'étranger. Évidemment, on veut développer l'international, que ce soit en attirant, comme on le fait avec plus de 20% de croissance ces 3 dernières années, d'étudiants internationaux en France, mais aussi en ayant la possibilité pour nos étudiants d'aller dans d'autres campus européens et peut-être plus largement dans l'avenir. C'est évidemment avoir plus d'étudiants aussi dans des écoles internationales, donc c'est un groupe vecteur international. Et puis enfin, le digital, parce que le digital, ça permet à la fois d'avoir un canal propre, ça permet d'avoir des modalités pour certains cours, ça permet à l'étudiant qui veut suivre ou qui doit suivre, parce qu'il a des contraintes de santé par exemple, des cours à distance, qu'on lui offre ce service-là. Donc à chaque fois, c'est plus de vertical pour enrichir la diversité des possibilités de personnalisation, c'est plus d'international et plus de digital.
Vous envisagez d'autres secteurs en termes d'enseignement ?
On verra. Dès lors que ça peut enrichir les verticales, oui, bien sûr.
D'accord. La santé, par exemple ?
Pas forcément, parce que bon, d'abord, la santé en France, c'est pas possible. Donc peut-être à l'étranger, ça, on verra. Mais non, il y a d'autres verticales, je pense au droit. Enfin, il y a d'autres choses qui peuvent être envisagées, qui sont connexes et complémentaires de nos écoles et de nos cursus.
Alors, qui sont vos concurrents? On pense à Galiléo, mais en dehors de ça.
Non, vous savez comme moi, que, Jérôme, que, en fait, on a des écoles ou des groupes qui sont très atomisés au global, et on a des marchés qui sont extrêmement atomisés. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a un marché, un concurrent ou plusieurs. On est sur des segments qui sont aujourd'hui assez différents, même s'il y a de plus en plus de passerelles, et qu'effectivement, le sujet de l'ensemble de nos écoles, c'est d'aller chercher en France des sous-segments qui n'étaient pas aujourd'hui très travaillés. Nous, on a ouvert le segment des BTS, par exemple, avec un énorme succès, et on s'en félicite, avec des taux de présentation à l'examen et des taux d'obtention des diplômes d'État qui sont très élevés. Et donc ça, ça permet aussi et l'insertion professionnelle, mais aussi la poursuite d'études pour les étudiants qui veulent. Donc c'est un exemple de nouveaux segments qu'il faut investiguer. On va aussi chercher des villes, et avec, on travaille beaucoup avec les maisons locales, mais avec des, dans des villes, chercher des profils différents, un peu de deuxième chance, de donner la possibilité à des étudiants qui, d'apprendre autrement et de leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils aient des études supérieures et puissent s'insérer professionnellement. Donc c'est des plus petits segments, mais c'est un peu à l'image de la société française, c'est-à-dire fragmentée, donc on se doit d'aller chercher des publics différents et de les amener à une réussite.
Alors quand on vous écoute, vous faites très attention à bien distinguer les diplômes et les titres.
Oui, bien sûr.
Alors parlons un peu des titres, puisque c'est les titres RNCP dont il est question. C'est aussi quelque chose qui, comment dire, un domaine qui fait l'objet de beaucoup de questionnements, et notamment la partie location. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre situation au sein du groupe Omnes à cet égard?
On est très très marginalement en train de louer, et quand on loue, c'est à titre gratuit avec des confrères. Donc, mais la stratégie qui a été la nôtre depuis plusieurs années, elle porte ses fruits, puisqu'on a 10 à 15 titres nouveaux de renouvellement de titres chaque année avec 100% de réussite. Réussite parce qu'on travaille étroitement avec la réglementation et avec France Compétences. Donc nous, on a fait le pari inverse, qui est celui d'avoir des titres en propre. Donc on développe nos produits au rythme de l'obtention de titres. Alors, c'est commercialement à court terme parfois pénalisant, mais je pense que c'est une stratégie assumée et qui aujourd'hui est très positive et qui, quelle que soit l'évolution de la réglementation voulue par les pouvoirs publics sur la location de titres, ne doit pas nous affecter.
Alors, qui dit titre RNCP, qui dit développement, dit aussi apprentissage. Pour vous, c'est quoi la part dans votre croissance de l'apprentissage au cours des 5 dernières années?
Aujourd'hui, bon, les chiffres ont été, vous les avez évoqués, Jérôme, donc c'est un étudiant sur deux en France, mais bien sûr, à l'international, c'est pas le cas. Le sujet, c'est de s'adapter. Les volumes ont augmenté, les marges sont négatives, hein, donc on l'a dit aujourd'hui. Donc, il faut gérer avec beaucoup d'attention. C'est très complexe déjà l'apprentissage. C'est à la fois du point de vue pédagogique et du point de vue administratif. Donc, c'est des coûts qui sont très importants.
Les marges sont négatives, vous voulez dire, vous ne gagnez pas d'argent sur
aujourd'hui. Aujourd'hui, les niveaux de prise en charge des niveaux 6 et 7, les données sont celles du ministère, sont inférieurs aux comptabilités analytiques qui remontent. Donc, si vous ne pratiquez pas marginalement un reste à charge, vous êtes déficitaire. Et donc, ça se traduit par des chiffres en 2023, 30% des CFA sont déficitaires.
Mais vous, dans votre croissance, à vous,
il faut gérer.
Qu'est-ce qui vient de cette...
Non, j'ai répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne gérez pas avec beaucoup d'attention à la fois les volumes et les marges, c'est une activité qui peut être déficitaire, très déficitaire. Elle l'est d'ailleurs pour beaucoup de nos collègues. Donc, je pense que c'est néanmoins nécessaire de garder ce vecteur-là, parce que ce vecteur offre la possibilité à des enfants de milieux sociaux très différents et à des jeunes qui n'ont pas une façon d'apprendre académique, d'autres voies aussi, de personnes de façon à arriver à des niveaux satisfaisants, de des niveaux significatifs de formation supérieure, et c'est ce dont on a besoin. Donc il faut préserver, je pense, ce dispositif-là, même s'il faut sans doute le simplifier.
Alors parlons un peu de votre actionnariat. Donc vous avez le fonds britannique Cinven, et puis vous avez aussi BPI France, donc l'État français. Alors le précédent propriétaire, le fonds APAC, c'était resté 6 ans. Le fonds actuel, ça fait à peu près 6 ans qu'il est là, donc forcément on se pose la question de la suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire?
Moi, je me pose pas la question de la suite, parce que ça a été complètement transparent pour les équipes lors des précédents changements de propriétaire. Ce qui est important, c'est quelle est la stratégie, quel est le projet qui est le nôtre. Et puis ensuite, il y a un changement d'actionnaire, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'opérations à faire, mais ça doit être transparent pour les équipes support et pour les écoles, et c'est ce que je ferai avec mes collègues. C'est le moment venu que ce soit le plus transparent possible.
D'accord. Et alors, avec les annonces de Trump, l'effondrement des marchés, on sent bien que le marché des fusions-acquisitions est en train de s'écrouler. Celui des multiples des EBITDA va sans doute aussi diminuer. Est-ce que ça risque pas de, comment dire, de reporter dans le temps les opérations?
C'est le fond qui décidera, ce qui est bon pour lui. Nous, managers, encore une fois, il faut qu'on soit centré sur l'étudiant, l'entreprise et le fait au quotidien d'essayer d'avoir la meilleure qualité de formation, d'enseignement possible.
Donc il faut qu'on demande aux dirigeants du fonds.
Ouais, si vous voulez.
Mais un fonds peut rester plus de 6 ans?
Oui, il y a des choses.
Il y a des exemples par le passé.
Il y a des prorogations possibles. Je ne connais pas grand-chose sur ça.
Si vous devez connaître quelque chose, José.
Il y a des prorogations possibles.
Jusqu'à combien de temps il peut y avoir des prorogations?
Ça dépend des politiques des fonds. Et puis ça dépend si le fonds dans lequel est votre actif a été renvoyé suffisamment de liquidités dans le passé ou pas. Voilà. Donc c'est très, très différent d'une situation à l'autre, d'un fonds à l'autre et d'un actif à l'autre.
Donc quand on dit qu'en général, un fonds, on revend tous les 5 ans, 6 ans, c'est une moyenne.
Vous savez,
ça peut être
10
ans en fait.
Ça peut être plus, ça peut être beaucoup moins. Okay. Il y a aussi des exemples dans l'autre sens.
Cher José Milano, il est temps de passer à des sujets plus légers pour finir ce podcast et de vous poser la question traditionnelle de fin du grand oral. Est-ce que vous avez préparé un petit conseil de lecture ou autre?
Je ne sais pas si ça va être léger parce que, comme le disait Jérôme, l'actualité est
lourde.
Moi, je recommande de lire modestement de la géopolitique, donc en langue française, Thomas Gomard, notamment l'accélération d'histoire, son dernier bouquin. Il y a un bouquin Visdin de Wharton, Maurice Guillen, qui est sur 2030. Alors, c'est avant Trump, mais c'est extrêmement intéressant sur la démographie et les tendances économiques au niveau mondial. Et puis, un livre intéressant de Kevin Rudd, qui est l'ancien Premier ministre australien, c'est la vision de la confrontation États-Unis-Chine, vu par un Australien qui a été ambassadeur en Chine et ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de son pays. Et c'est pas du tout la vision qu'on a en Europe. Donc voilà, quelques
alors,
conseils de lecture.
Les trois titres.
Donc Thomas Gomard, l'accélération de l'histoire. Mauro Guillen, 2030, donc c'est de Wharton. Et puis
Kevin
Rudd, donc sur les États-Unis et la Chine. Et donc c'est une vision d'un spécialiste de la Chine de cette relation qui est quand même un des axes les plus importants de la situation actuelle et probablement de l'avenir du monde dans les prochaines années. Ouais.
Exactement. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Merci à vous.
Ça fait une bonne pile sur notre table de nuit. Merci beaucoup José d'être venu nous rendre visite au Studio Module. Merci aussi à vous Jérôme. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.